France Inter.
Bonjour à tous, ils sont opposants au régime chinois, ils vivent en France, mais avec toujours l'ombre menaçante de Pékin. China Targets, les cibles de la Chine, enquête exceptionnelle cette semaine, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ. Bonjour Géraldine Allot et Maxime Tellier.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez mené cette longue enquête pour la cellule investigation de Radio France et Secrets d'Info. On va découvrir avec vous comment la Chine traque ses opposants partout dans le monde et notamment donc en France, mais aussi comment les autorités françaises peuvent parfois se montrer complaisantes.
Secret d'info, Benoît Colombat sur France Inter.
Dès l'aéroport, le cortège de Xi Jinping est salué par un comité d'accueil organisé par l'ambassade chinoise. Même chose à Paris, à côté de leur hôtel près des Champs-Élysées.
On aimerait les pays s'entendent bien, qu'on vive l'amitié franco-chinoise.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur TF1 le 5 mai 2024, à l'occasion de la visite officielle du président chinois en France. Un comité d'accueil enthousiaste, voilà pour le côté face. Mais côté pile, c'est une autre histoire que nous allons vous raconter. Et pour commencer, Géraldine Allot, il faut dire un mot sur le profil de ces opposants traqués par Pékin.
Alors la Chine les appelle les 5 poisons. Ce sont les Tibétains, les Ouïghours, les militants pro-démocratie, notamment à Hong Kong, les partisans de l'indépendance de Taïwan et les membres du mouvement spirituel Falun Gong. Tous ont en commun de rejeter l'hégémonie et la mainmise du Parti communiste chinois, le PCC, et tous ont en commun d'être dans le viseur des autorités, y compris lorsqu'ils vivent à l'étranger. C'est ce que nous explique la sinologue Marie Holzmann, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise.
Le Parti communiste chinois tient absolument à garder son pouvoir par tous les moyens possibles. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'opposition, il ne faut pas que les Chinois qui vivent en France rencontrent des gens considérés comme opposants à la Chine, il ne faut pas qu'ils organisent des événements qui pourraient nuire à l'image de la Chine, etc. etc. Mais maintenant, ça va de plus en plus loin.
De plus en plus loin, c'est-à-dire ?
Déjà, géographiquement parlant, d'après l'enquête que nous avons menée, 105 membres de la diaspora chinoise, ouïghour, tibétaine et hongkongaise résidant dans 23 pays ont été pris pour cible récemment par les autorités chinoises. Et avec les technologies numériques, Pékin peut les atteindre partout et de façon instantanée. Les opposants au régime chinois ne sont à l'abri nulle part.
Et cette répression, au-delà des frontières de la Chine, elle est allée crescendo ces dernières années.
Oui, le virage sécuritaire de la Chine s'est amorcé en 2012 au moment de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Le président chinois cherche à asseoir son autorité à la tête du Parti communiste en éliminant les clans rivaux et il veut faire taire toutes les voix dissidentes après la relative ouverture qu'a connue la Chine sous son prédécesseur Hu Jintao. C'est l'analyse de Paul Charon, directeur du domaine influence et renseignement à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Il est co-auteur en 2021 d'un rapport sur les opérations d'influence chinoise.
Le PCC sous Xi Jinping a hautement conscience de la menace représentée par toutes ces voix dissidentes. Le régime a peur, en fait, tout simplement. Le PCC a peur de perdre le pouvoir. Le modèle, surtout à ne pas suivre, la voie à ne pas suivre, c'est celle de l'URSS. Donc la voie de l'ouverture progressive, ou en tout cas modérée, qui permettrait au régime de survivre plus longtemps, clairement, Xi Jinping n'y croit pas, et ça explique vraisemblablement ce virage sécuritaire.
Et parmi les dissidents que Pékin veut faire taire, il y a notamment un jeune Chinois arrivé en France en 2018.
Oui, il s'appelle Chiang Sita, il a 31 ans, il est artiste de profession. En 2011, il est arrêté en Chine après avoir participé à une manifestation pro-démocratie dans la foulée des printemps arabes, puis de nouveau arrêté l'année d'après, car il a adhéré au Parti démocratique chinois, interdit par Pékin. En 2018 donc, il arrive en France, il crée son association Le Front de la Liberté, et très vite, il remarque des choses étranges sur ses réseaux sociaux.
Depuis 2019, plusieurs de mes comptes sur les réseaux sociaux chinois ont été bloqués ou suspendus. En France aussi, j'ai eu des problèmes sur mes comptes Gmail et Facebook. J'ai reçu une notification m'informant qu'il pourrait s'agir d'une attaque de la part d'un gouvernement étranger. Et sur mon site web personnel, il y a eu régulièrement des tentatives d'intrusion avec des gens qui essayaient plein de mots de passe. D'abord, c'était des dizaines de fois par jour, et en avril, c'était des centaines de fois.
Et ça ne s'arrête pas à des tentatives de piratage.
Non, la famille de Chang Sita, restée en Chine, est également convoquée par la police.
En 2023, mes parents ont été interrogés 3 fois par la police. Et en 2024, c'était même 6 ou 7 fois. Mais il n'y a pas eu que ma famille. Dans l'association française que j'ai créée, le Front de la Liberté, les parents d'au moins 9 membres ont été contactés par les autorités chinoises.
Et ces pressions, elles se sont intensifiées au moment de la visite à Paris du président chinois qu'on évoquait à l'instant.
Oui, Xi Jinping arrive en France le 5 mai 2024 et dans les jours qui ont précédé et pendant cette visite d'État, les parents de Chang Sita sont interrogés à plusieurs reprises par la police en Chine et parfois même en pleine nuit.
Ils ont appelé mes parents pour m'empêcher d'organiser des manifestations. Ils leur ont dit « Nous savons que votre fils s'est livré à des activités contraires aux lois chinoises, en Chine et à l'étranger. Nous pourrions fermer les yeux là-dessus, mais cette fois, le grand leader vient en France. Donc si votre fils fait quelque chose d'embarrassant pour le grand leader, ce sera difficile à gérer pour nous. » C'était une menace, parce qu'ils ont aussi prévenu mon père en lui disant « Vous avez une caisse de retraite et une assurance maladie. Vous voudriez sortir de Chine pour rendre visite à votre fils à l'avenir ? Si vous coopérez avec nous, ça ne posera pas de problème. »
Ces menaces n'ont pas empêché Chang Sita de participer à la grande manifestation contre la venue de Xi Jinping qui a rassemblé Place de la République à Paris des milliers de dissidents chinois, de tibétains et de ouïghours. Chang Sita y a prononcé un discours très remarqué.
Et cette répression, elle vise également les tibétains.
Oui, il serait entre 8000 et 10000 en France. Ils sont originaires du Tibet, conquis, on le rappelle, par la force dans les années 50 par l'armée populaire de Chine. Parmi les tibétains installés en France et depuis 27 ans, il y a Thubten Gyatso, député du Parlement tibétain en exil. L'an dernier, lui aussi a pris la parole, Place de la République, pour dénoncer la venue du président chinois. Son discours avait été très relayé sur les réseaux sociaux, ce qui manifestement a déplu à Pékin. Thubten Gyatso l'a compris quand il a reçu un appel de son frère.
3 jours après la visite de Xi Jinping, j'ai compris qu'il y a un numéro qui m'appelle par WhatsApp, mais avec un numéro chinois. Donc, je me dis que ça sent pas bon. Je n'ai pas décroché. 1 heure après, ils ont rappelé à partir d'un autre numéro. Je n'ai pas décroché. Ils ont rappelé par un autre numéro, toujours WhatsApp, 3 numéros différents. Donc, il a laissé 3 barres de messages vocales, mon frère. Il a dit, voilà, je suis entouré par des amis chinois. Puisque je n'ai pas de réseau sur mon téléphone, ils m'ont traité leur téléphone. J'espère que tu vas bien en France. J'espère que tu ne fais pas de bêtises. Ce que tu fais ne va pas à l'encontre de politique du gouvernement chinois. Et donc voilà, pour vous dire que c'est intimidant sur le moment.
Et dans ce contexte, Thubten Gyatso fait très attention lorsqu'il parle avec sa famille au Tibet, notamment quand il utilise WeChat, le WhatsApp chinois.
Je raconte même pas ce que je fais en France. Tout ce qui est gouvernement tibétain, mouvement tibétain, j'ai jamais évoqué avec mon frère. C'est pour le sauver. Hein. Parce que WeChat, quand on appelle, de toute façon, on est 3e partie qui écoute. Tout est enregistré. Et donc si j'ai dit la moindre chose, je serai considéré comme un instigateur et lui, il sera accusé de fomenter un coup de complot contre le pouvoir, etc. Donc moi, je voulais pas leur donner de matière.
Mais on l'entend, tous ces opposants au régime chinois sont surveillés quasiment en temps réel par la Chine. Mais alors, question Géraldine, comment réagissent les autorités françaises ?
Alors c'est clairement une préoccupation pour la DGSI, le contre-espionnage français. Elle nous fait savoir que ces ingérences étrangères font l'objet d'un suivi prioritaire parce qu'elles portent atteinte à notre souveraineté nationale. La DGSI encourage les victimes à se signaler via un formulaire disponible sur son site internet. Et si elle demande aux victimes de se faire connaître, c'est parce qu'il est difficile pour les services français de débusquer ces ingérences. C'est ce qu'explique le spécialiste Paul Charon.
la France met des choses en place. Le problème, c'est que toute une partie de ces opérations ne sont pas menées de manière officielle. Il faut d'abord les détecter pour pouvoir les entraver. Donc, tout un tas de ces opérations sont clandestines. Et d'autres sont dématérialisées. C'est-à-dire que quand un membre de la diaspora reçoit une vidéo de menace, tout se fait en ligne ou en utilisant WeChat. Voilà. Et donc, c'est très difficile pour une autorité étatique de contrôler ce type de moyens de pression.
La France met des choses en place, d'accord, mais ce que vous avez découvert, c'est que l'attitude des autorités françaises posait aussi question avec parfois une forme de complaisance envers la Chine.
Oui, notre enquête révèle que lors de la dernière visite du président chinois, la police française a pris des initiatives surprenantes. Ainsi, le 6 mai 2024, alors que Xi Jinping est attendu à l'Élysée pour un dîner d'État, une femme tibétaine, arrivée en France il y a 10 ans, décide de se rendre seule sur le pont de l'Alma pour voir passer le cortège. Il est 19h, la circulation a été coupée et cette femme tibétaine que nous appellerons Pema se retrouve sur le pont face à des dizaines de ressortissants chinois qui déploient des drapeaux chinois. Pema, dont nous avons modifié la voix, nous raconte la suite.
J'ai écrit le Free Tibet sous mon sac et j'ai écrit ça sur le pont d'Alma devant le chinois pour dénoncer le président chinois.
Donc vous aviez juste écrit sur votre tote bag au stylo Bic « Free Tibet ».
Oui, c'est ça, j'ai écrit « Free Tibet ». Et après, quand je l'ai mis devant moi, il y a des Chinois qui demandaient à la police de me arrêter. Et la police, elle est venue vers moi et ils m'ont demandé de ne pas laisser sur le pont d'Alma.
Donc la police française lui ordonne de ne pas rester sur le trajet du cortège de Xi Jinping, ce que nous avons pu confirmer grâce à une vidéo tournée par Pema. Pema est ensuite emmenée au commissariat du 17e arrondissement de Paris, d'où elle ressortira libre à 22h, soit 3h au total de garde à vue, mais sans être interrogée par un officier de police, ce qui pose question sur le sens de cette garde à vue.
Et il est arrivé la même chose à une autre tibétaine.
Oui, nous l'appellerons Tsering. Là encore, c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée. Elle est arrivée un peu après 19h sur le pont de l'Alma.
Je voulais crier quelque chose pour que le président chinois ait l'impant. Donc j'ai sorti mes drapeaux parce que j'avais le drapeau tibétain et le drapeau français aussi. Et quand le cortège est venu, à ce moment-là, j'ai sorti juste comme ça. Et puis j'ai juste dit « Tibet libre », c'est tout. Mais après, quand le cortège est fini, il y avait des policiers qui sont venus vers moi et ils m'ont dit « Madame, c'est interdit de rester avec les drapeaux ». Le policier m'a arrêté et puis il m'a ramené vers le... Il y avait une voiture de police. Il m'a ramené vers la voiture.
Là encore, Tsering passera 3 heures en garde à vue sans être interrogée.
Mais ces deux femmes tibétaines qu'on vient d'entendre, elles seront tout de même reconvoquées par la police.
Oui, elles retournent au commissariat quelques mois plus tard. Les policiers leur expliquent enfin le motif de leur arrestation, participation à une manifestation non autorisée. Mais finalement, il n'y a eu aucune suite judiciaire.
Et il y a eu d'autres gardes à vue un peu étonnantes.
Comme celle de Topjor Tsultrim, l'un des responsables de l'association Étudiants pour un Tibet libre. D'ordinaire, il vit aux États-Unis, mais au moment de la visite de Xi Jinping, il est en France. Avec des membres de son association, ils ont déployé une banderole Tibet libre au-dessus du périphérique parisien, au passage du cortège. Topjor Tsultrim est arrêté par la police avec 5 autres personnes. Ils resteront 6 heures en garde à vue, là encore, pour participation à une manifestation non autorisée. Et pour l'avocate de ces Tibétains, Anne-Gabrielle Gandon, il s'agit d'arrestations abusives.
Ce sont des gardes à vue pour extraire des gens de l'espace public, pour les empêcher de s'exprimer. En fait, c'est arbitraire. Les procédures judiciaires, ensuite, elles ne tiennent pas. C'est pour ça qu'elles sont classées sans suite, notamment sur le fondement d'infractions insuffisamment caractérisées. En France, il y a la liberté d'expression qui doit être respectée.
Contactée, la préfecture de police de Paris confirme ces arrestations, mais sans faire de commentaires.
Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors, on a vu comment les dissidents chinois et les Tibétains en exil étaient harcelés par les autorités chinoises, mais il y a une autre minorité qui est visée dans plusieurs pays du monde, et notamment en France, et là, je me tourne vers vous, Maxime Tellier, ce sont les Ouïghours.
Oui, les Ouïghours, on le rappelle, sont un peuple turcophone de religion musulmane. Ils vivent dans la région autonome chinoise du Xinjiang, où plus d'un million d'entre eux sont détenus dans des camps. Les violences qu'ils subissent sont documentées de longue date. En France, la communauté Ouïghour dénonce plusieurs tentatives d'intimidation, voire d'enlèvement ces derniers mois.
Et il y a notamment un cas emblématique, celui d'une réfugiée politique ouïghour arrivée en France en 2020.
Oui, elle s'appelle Gulbar Jalilova. Elle a passé un an et trois mois dans un camp au Xinjiang où elle a été battue, torturée, violée. Elle est devenue une figure de la diaspora ouïghour, notamment parce qu'elle a témoigné de l'enfer qu'elle a vécu. Mais le 8 mai 2024 à Paris, au lendemain de la visite d'État du président chinois, et alors qu'elle avait manifesté elle aussi contre la venue de Xi Jinping, elle est victime de ce qu'elle qualifie de tentative d'enlèvement. C'est son avocat, Jérôme Carsenti, qui raconte.
Elle est partie au marché faire des courses, et puis quand elle revient, elle est prévenue par une voisine qui assiste à la scène, c'est-à-dire qu'elle voit au pied du domicile un van noir avec 9 personnes à son bord. Lorsque Gulbar approche, donc elle voit, elle comprend qu'ils sont venus pour elle. Sont-ils venus la chercher? Sont-ils venus faire pression? Sont-ils venus la menacer? Sont-ils venus l'interroger? Toujours est-il qu'ils seront contrôlés. Et on saura par la suite, un, que ce sont des ressortissants chinois, deux, que parmi ces membres-là, il y a un membre du Front uni. Donc ça, c'est effectivement suffisamment documenté pour qu'on puisse déposer plainte.
Et le 10 mars dernier, une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement a donc été déposée afin qu'un juge d'instruction soit saisi.
Et dans cette plainte, on vient de l'entendre dans la bouche de cet avocat, il est question du Front uni. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est à la fois une stratégie politique et un réseau d'individus qui sont contrôlés par le Parti communiste chinois pour défendre ses intérêts en Chine, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est ce que nous explique le chercheur Paul Charon.
Pour comprendre le Front uni, l'idée essentielle, c'est ça, c'est qu'il faut éliminer toute contestation du parti, toute menace qui pèse contre le parti. Donc ça commence en Chine même, et puis ça s'étend au sein de la diaspora, et même au-delà de la diaspora. Donc l'une des façons d'agir, c'est des actions positives, c'est-à-dire on rallie aux objectifs du parti ses acteurs, et puis il y a une version plus négative, plus agressive, si vous voulez, qui est l'utilisation de la coercition pour faire taire ceux qui critiquent la Chine.
Et face à ces ingérences, la France ne fait pas toujours rempart.
Et ça, on le voit à travers l'histoire d'une autre figure de la diaspora ouïghour qui se retrouve poursuivie par la justice française pour des faits dérisoires. Elle s'appelle Dilnour Reyhan. Elle est arrivée en France en 2004 et elle enseigne à l'INALCO, l'Institut National des Langues Orientales. En septembre 2022, pour protester contre la présence de la Chine à la fête de l'humanité, elle jette de la peinture rouge, symbole pour elle du sang des Ouïghours, sur le stand de l'ambassade de Chine. L'ambassade dépose une plainte, mais le parquet d'Evry la classe sans suite, car les dégâts matériels sont minimes.
Sauf que la Chine conteste ce classement sans suite et le procureur d'Evry décide de rouvrir le dossier.
Oui, en mars 2024, volte-face du parquet d'Evry qui qualifie cette fois les faits de dégradation aggravée. L'affaire est donc rouverte et le timing n'est pas neutre, estime l'avocat de Dilnour Reyhan, maître William Bourdon. Nous sommes alors à un mois de la visite d'État de Xi Jinping en France.
Tout ça intervient dans le contexte de la préparation de la visite de Xi Jinping à Paris en 2024. Il y a là donc une espèce de contemporanéité qui suscite des questions. Il y a des rapprochements chronologiques que l'on peut et que l'on doit faire, qui suggèrent à minima que cette affaire était suivie au plus haut niveau et que très certainement n'a pas voulu embarrasser ou contrarier Pékin à l'approche de la visite de son principal responsable.
Bon, mais au-delà des interprétations qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de penser que cette affaire de peinture rouge jetée sur une banderole a été vraiment suivie au plus haut niveau judiciaire ?
Oui, c'est la procureure générale de Paris, Marie-Suzanne Lequeo, qui a envoyé des instructions écrites au procureur d'Evry pour qu'il relance les poursuites contre Dilnour Reyhan. Or, ce genre d'instruction serait extrêmement rare, nous a confié une source judiciaire.
Et que répond la procureure générale de Paris ?
Elle nous répond qu'après avoir examiné attentivement attentivement la procédure, elle a estimé que l'infraction de dégradation aggravée était caractérisée et que les instructions écrites à un procureur sont une démarche courante. Quoi qu'il en soit, pour Dilnour Reyhan, qui comparaîtra en octobre prochain devant le tribunal correctionnel d'Evry, c'est un coup dur.
Je suis française depuis 10 ans maintenant. J'étais extrêmement honorée et heureuse d'avoir enfin un pays, enfin une patrie. Je n'avais jamais imaginé, évidemment, dans cette patrie de, entre guillemets, de droits humains, je me retrouve être harcelée par la justice pour mon droit de m'exprimer symboliquement mon désaccord et mon indignation face à un génocide commis par un État totalitaire qui est honoré par une fête de l'humanité dans notre pays.
Et pour rappel, de nombreux chercheurs et spécialistes de la région mettent en avant le caractère génocidaire des violences commises par la Chine contre les Ouïghours. En janvier 2022, l'Assemblée nationale a voté une résolution en ce sens. Pour Maître William Bourdon, en tout cas, cette affaire est typique de l'attitude de Pékin qui instrumentalise, selon lui, la justice française pour réprimer ses opposants.
Ce qu'ils veulent, c'est envoyer un message aux dissidents. Nous sommes capables d'exporter, en utilisant l'état de droit que par ailleurs méprise, ici en France, nous sommes capables d'exporter toutes les méthodes possibles pour vous suivre, vous intimider, vous bâillonner, voire vous persécuter, y compris en instrumentalisant la justice française. Ce dossier en est un exemple caricatural.
Bon, et que répondent les autorités françaises ?
Alors, nous avons contacté celui qui était ministre de la Justice à l'époque, Éric Dupond-Moretti. Il nous dit qu'il n'était pas au courant de la demande du parquet général de Paris de poursuivre cette figure de la diaspora ouïghour pour un jet de peinture. Pas de commentaire dans l'entourage de Gérald Darmanin, l'actuel garde des Sceaux.
Et dans ce climat très lourd, les opposants au régime chinois réfléchissent à deux fois avant de parler.
Oui, ils se disent souvent qu'ils ont trop à perdre. D'une part, ils sont harcelés par Pékin et en plus, ils ne se sentent pas forcément protégés par la France. Alors certains renoncent à s'engager publiquement. C'est ce que constate Marine Mazel, chargée de plaidoyer à l'Institut Ouïghour d'Europe.
En permanence, c'est un espèce de calcul de plaisir et des peines pour savoir est-ce que la parole publique que je prends ici, ça ne va pas avoir une incidence directe sur le fait qu'il y a un membre de ma famille qui va aller en camp de concentration ou faire l'objet d'une arrestation arbitraire. Et donc ça, c'est terrible pour les membres de la diaspora parce que c'est un dilemme cornélien.
Et pour vous donner une idée du climat qui pèse sur les épaules des opposants au régime chinois, Gulbar Jalilova, cette figure de la diaspora ouïghour qui a failli être enlevée à Paris, n'a pas pris la parole publiquement depuis ce qui lui est arrivé en mai 2024. Elle a passé 6 mois en hôpital psychiatrique. Les deux femmes tibétaines qui avaient sorti un drapeau et un tote bag Free Tibet se tiennent à l'écart désormais de tout engagement associatif.
Bien, on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous dévoiler une autre méthode utilisée par Pékin pour faire taire les voix dissidentes, les notices rouges d'Interpol.
What I really want to know is, can you catch these fits? some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out, yet don't approach me, I just wanna dance with my friends.
Le rock électrique et combatif du groupe britannique Wet Leg, Catch This Fist, extrait de leur prochain album, Moisturizer, sorti prévu le 11 juillet prochain.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation sur les opposants au régime chinois traqués et mis sous pression par la Chine. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Géraldine Allot, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le viseur de Pékin, ce sont les hommes d'affaires chinois.
Oui, à partir de 2020, le Parti communiste chinois a renforcé sa mainmise sur le secteur privé en écartant les hommes d'affaires qui se montraient critiques vis-à-vis du régime. Le cas le plus emblématique est le milliardaire Jack Ma, le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba. Il avait osé brocarder le système financier chinois lors d'un discours en octobre 2020 à Shanghai. Voici un extrait.
Les banques chinoises d'aujourd'hui sont restées bloquées dans une mentalité de prêteur sur gage. Elles demandent trop de garanties, trop de cautions. C'est un système qui a été innovant et qui a permis le développement de l'économie chinoise depuis 40 ans. Mais pour assurer nos besoins financiers des 30 prochaines années, il faut changer. On ne peut pas gérer l'avenir avec les méthodes d'hier.
Et cette prise de parole de Jack Ma, elle a eu des conséquences.
Des conséquences énormes, car en représailles, les autorités chinoises annulent l'introduction en bourse de Ant, la filiale financière d'Alibaba. Et quelques mois plus tard, le groupe reçoit une amende record de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Jack Ma disparaît de la circulation. Il n'a réapparu publiquement que tout récemment, après plusieurs années de purgatoire.
Et au-delà du cas de Jack Ma, ce que montre donc votre enquête, c'est que la Chine traque également ses hommes d'affaires vivant à l'étranger.
Oui, des hommes d'affaires dont elle se méfie, soit parce qu'ils n'ont pas fait allégeance au Parti communiste, soit parce qu'ils ont gagné trop d'argent, donc trop de pouvoir, soit aussi parce qu'ils sont liés à des factions rivales à Xi Jinping. Et pour mettre la main sur eux, les autorités chinoises utilisent un moyen très commode, les notices rouges d'Interpol, qui à la base permettent d'arrêter des criminels en cavale.
Mais sauf que ce ne sont pas toujours des criminels qui sont visés par des notices rouges chinoises.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre enquête documente 50 cas où la Chine a instrumentalisé les notices rouges. Il y a notamment cet exemple frappant qu'on a découvert. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. En France, il a acheté des domaines viticoles dans le Bordelais, classé Saint-Émilion Grand Cru. Cet homme, on va l'appeler Monsieur H, car il ne souhaite pas qu'on révèle son identité. Et le 22 mars 2021, il est arrêté à l'aéroport de Bordeaux alors qu'il rentre d'Islande. La suite, c'est l'une de ses avocates, Maître Clara Gérard-Rodriguez, qui nous la raconte.
Vraiment à la descente sur le tarmac, notre client est tout de suite interpellé par la police aux frontières qui le notifie du fait qu'il est visé par une notice rouge, donc émise par Interpol à la demande de la Chine. Dans ces conditions, la police aux frontières a le droit de le retenir judiciairement, donc ce n'est pas une mesure de garde à vue, mais de rétention judiciaire, pendant 48 heures, dans les locaux de la police judiciaire, jusqu'à sa présentation devant le parquet général de la cour d'appel de Bordeaux.
Et cet homme d'affaires est libéré et placé sous contrôle judiciaire en attendant l'examen de la demande d'extradition.
Et pourquoi ce milliardaire, ce monsieur H, est recherché par la Chine ?
Alors officiellement pour blanchiment d'argent, mais selon le dossier judiciaire auquel nous avons eu accès, les autorités chinoises veulent en fait qu'il revienne en Chine pour témoigner en justice contre un ancien ministre de la Sécurité publique tombé en disgrâce.
Donc ça ressemble à un règlement de compte politique.
Oui, et cela apparaît de manière limpide et spectaculaire dans le dossier judiciaire. Car dès le lendemain de son arrestation, M. H reçoit un appel sur son téléphone portable qu'il prend la peine d'enregistrer. Au bout du fil, un enquêteur chinois de la commission de discipline du Parti communiste. Nous avons fait lire un extrait de cet appel. On comprend clairement que cette affaire de blanchiment n'est en fait qu'un prétexte, voire qu'elle est montée de toutes pièces.
Ton affaire de Dong Wan, si on la considère comme une affaire, ce sera une affaire. Sinon, on pourrait considérer que ce n'est pas une affaire. Maintenant, je te dis que si tu rentres, ce ne sera pas une affaire. Tu as compris ?
Mais autrement dit, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on te mettra cette affaire sur le dos. Et des appels comme celui-ci, il y en a eu d'autres.
8 au total, tous enregistrés et traduits devant huissier. Il y a notamment cette connaissance de M. H, propriétaire de l'hôtel Hilton de Shanghai. Le 26 mars 2021, il l'appelle pour lui faire passer un message sans équivoque.
Je vais te dire une chose. Ils m'ont dit que toute ta famille sera arrêtée sous 3 jours.
Quoi ?
Sous 3 jours, toute ta famille sera arrêtée.
5 jours plus tard, ce même patron chinois rappelle M. H pour lui dire que sa sœur aînée a été arrêtée et pour lui conseiller fermement une nouvelle fois de rentrer en Chine.
Cet appareil d'État, si tu continues comme cela, il emploiera des méthodes encore plus puissantes. Tu me crois ? Tu ne discutes pas ? Ta vie appartient à l'État ? Ne dis plus rien, mon ami.
C'est effectivement assez glaçant comme message. On comprend que les autorités chinoises sont prêtes à tout pour faire revenir cet homme d'affaires.
Oui, Pékin va même demander à Jack Ma d'intervenir. Jack Ma, on en a parlé il y a un instant, c'est le fondateur d'Alibaba et il se trouve que c'est un ami de M. H. Alors le 18 avril 2021, il l'appelle et il se fait le messager docile des autorités chinoises.
Ta responsabilité est de coopérer. Si tu ne coopères pas, ils vont te créer de graves problèmes. Tu n'as pas d'autre solution. Comme tu étais à l'étranger, l'étau va de plus en plus se resserrer.
Alors je me tourne à présent vers vous, Maxime Tellier. Comment faut-il interpréter cet appel de Jack Ma ?
Eh bien, à cette époque, l'empire de Jack Ma est en train d'être démantelé en Chine. Lui-même a disparu des radars. Alors est-ce que les autorités chinoises ont fait pression sur lui pour qu'il convainque son ami de rentrer en Chine ? Jack Ma, contacté via son service de presse, n'a pas souhaité répondre. Écoutez ce qu'en dit Maître Clara Gérard Rodriguez.
On a vu et on a appris publiquement la disparition de Jack Ma pendant plusieurs mois, qui a précédé de peu l'affaire dont on parle. Cet homme qu'on pensait intouchable, extrêmement puissant, extrêmement connecté dans l'ensemble des pays du monde, disparaître totalement pendant plusieurs mois et puis réapparaître en plaidant allégeance au Parti communiste chinois. Et c'était finalement aujourd'hui la même chose que l'on attendait de notre client.
Et qu'est-ce qui va se passer finalement ?
Dans un premier temps, après tous ces appels de menaces, M. H est à deux doigts de céder aux autorités chinoises. Son autre avocat, Pierre-Olivier Sûr, était à ses côtés dans sa propriété de Saint-Émilion.
On l'a vu craquer quand, effectivement, l'un des proches de sa famille a été jeté en prison à cause de lui et qu'on menaçait les autres. Et à ce moment-là, je me souviendrai toujours de ce moment entre lui et moi où il me dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis obligé de rentrer ». Et je lui dis non, il ne faut pas rentrer.
Et finalement, en juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux refuse son extradition. La justice a estimé qu'il s'agissait d'une procédure politique, ce qui est interdit par le traité d'extradition entre la France et la Chine, comme l'explique Clara Gérard Rodriguez.
La Chine, en réalité, utilise les outils de la coopération judiciaire internationale telle qu'ils existent, donc Interpol, qui est une organisation de coopération policière, les procédures d'extradition, qui sont des procédures de coopération judiciaire, tout en parallèle, employer des méthodes extrajudiciaires et illégales pour obtenir que les personnes dont elles souhaitent le retour rentrent volontairement ou non.
Alors avant de conclure, il y a une question qui se pose à nouveau. Face à toutes ces opérations visant des dissidents ou des hommes d'affaires chinois, est-ce que la France a vraiment pris la mesure du problème ?
Alors la question se pose pour tous les pays ciblés par Pékin. On a longtemps dit que l'Europe était perméable aux ingérences chinoises, mais récemment, le Parlement européen a appelé à une réponse harmonisée des États membres pour contrer la répression transnationale, notamment chinoise. La DGSI française, on l'a dit, a lancé un formulaire de signalement sur son site. Le Royaume-Uni a mis en place une commission d'enquête. Écoutez ce qu'en dit Laura Hart, la directrice de l'ONG Safeguard Defenders, qui a publié un rapport sur les ingérences chinoises.
La Chine s'en est bien sortie pendant très longtemps. Je pense que la prise de conscience s'est considérablement accrue ces dernières années. Sur le phénomène de la répression transnationale en général, les pays rattrapent leur retard, y compris la France. En même temps, il y a toujours ce problème. On considère toujours la Chine comme un partenaire. Et vous savez, tous les pays ne sont pas prêts à parler franchement à la Chine et à dire à Pékin ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
Et la question prend évidemment un autre relief en pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Contactée à plusieurs reprises, l'ambassade de Chine en France nous a répondu qu'elle s'opposait, je cite, à cette prétendue enquête et à sa diffusion. À Pékin, les ministères de la Sécurité publique et de la Sécurité de l'État ont également été contactés par le consortium des journalistes d'investigation, l'ICIJ, mais ils n'ont pas répondu aux questions qui leur étaient posées.
Merci Maxime Tellier et Géraldine Allot pour cette enquête en collaboration avec le Consortium international des journalistes d'investigation que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé. Pour aujourd'hui, cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Théo de Lobadère. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.